Donc l'interprétation langue des signes français-française est un cas particulier de communication bilingue dans lequel les deux langues en contact, donc le français et la langue des signes, sont typologiquement très éloignées, et ce dans un contexte général en France que nous avons, qui est la diglossie entre la langue haute dominante, le français, et la langue basse minorée, donc la LSF. Donc dans cette communication, nous allons traiter de l'exemple des interprètes LSF français pour parler du bilinguisme particulier des interprètes entre une langue vocale et une langue des signes. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce bilinguisme? Qu'est-ce qu'on peut en retirer pour l'enseignement de l'interprétation? Ce sont des questions donc, que nous allons nous poser au cours de cette communication.
Alors, on va commencer par un petit retour historique. C'est toujours bien. Donc, pour redire que l'interprétation LSF français a commencé à se professionnaliser à partir de la fin des années 1970. Vous connaissez tous le réveil sourd, c'était donc en même temps. Dans ce réveil sourd, on avait des sourds, des entendants universitaires, mais aussi des parents et des interprètes qui encourageaient les personnes sourdes à revendiquer l'utilisation de la langue des signes dans la société et surtout dans l'éducation des enfants sourds. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, juste un rappel, ça faisait pratiquement 100 ans que la langue des signes avait été proscrite des établissements d'éducation, avec toutes les conséquences évidemment que cela avait eues, c'est-à-dire, pour résumer grossièrement, l'exclusion pédagogique et sociale des enfants et des adultes sourds, et surtout une grande dépréciation de la langue des signes. Alors au tout début, avant le réveil sourd, au tout début des années 1970, il y avait aussi des interprètes qui étaient présents. Mais ce n'était pas leur activité principale. Et la plupart de ces interprètes pratiquaient surtout du français signé, on peut le dire. Et le français signé, tout le monde sait ce que c'est à peu près, c'est-à-dire que c'est un calque de la langue vocale sur la langue des signes. Chaque mot était considéré comme devant à tout prix être accompagné de son mot, si je puis dire, en langue des signes, même si ça n'avait aucun sens en langue des signes. Alors c'est ainsi que beaucoup de termes utilisés comme pendant, parce que, etc., ça allait évidemment avec. Alors ça ralentissait grandement la production en langue des signes. Évidemment, la production en langue des signes était incompréhensible de la plupart des sourds qui ne maîtrisaient pas le français, puisqu'évidemment, pour comprendre le français signé, il faut maîtriser le français. Et ça a nié, évidemment, toute la dimension iconique de la langue des signes. Alors, donc, on précise que c'était quand même, évidemment, le résultat d'une époque. Ce n'est pas de leur faute. Et ces interprètes œuvraient essentiellement de manière bénévole et leur activité principale était d'ailleurs autre chose que interprète. Peu à peu, ces interprètes, qu'on pourrait appeler version bêta, si je puis me permettre, ont progressivement été remplacés par des interprètes d'une deuxième génération, la version 2.0, des interprètes qui avaient côtoyé des militants sourds et qui connaissaient donc bien la langue des signes pratiquée par les sourds. Et ils étaient convaincus que c'est cette langue des signes qu'ils devaient utiliser. Dès la première ouverture d'une formation d'interprète en 1983, ici à l'Université Paris 8, ils ont intégré cette formation et essayé de se former. Malheureusement, cette formation n'a pas duré longtemps, mais ça a quand même lancé la professionnalisation du métier. C'est devenu l'activité principale des diplômés de cette génération. Donc ces interprètes sont encore actifs aujourd'hui et ils ont été rejoints peu à peu par une nouvelle génération d'interprètes, un nouveau profil. On pourrait les appeler la version 3.0, le profil actuel d'ailleurs, majoritaire, c'est-à-dire des personnes sans lien direct avec les sourds et qui ont appris la langue des signes grâce au cours de LSF qui avait été mis en place par les sourds militants du réveil sourd à la fin des années 1970. Alors je m'arrête une seconde sur ces cours de LSF car ils ont une particularité linguistique. Lorsque les sourds ont commencé à enseigner leur langue, ils ont finalement créé une variante de la LSF, une nouvelle variante qu'on peut appeler la variante enseignée et qui ne correspondait pas tout à fait aux variantes pratiquées par les sourds, puisqu'elle avait été le fruit d'un choix lexical entre deux variantes principales, la variante de Saint-Jacques et la variante d'Asnières. Ça a des conséquences au niveau des interprètes, puisque c'est évidemment une langue non pratiquée par les sourds qu'ils ont apprise. Ils ont donc dû se former à apprendre et à comprendre la langue des signes pratiquée par les sourds. Donc on voit bien qu'en 40 ans, le profil a bien changé.
Passons maintenant à la question du bilinguisme. Donc, tout d'abord, il faut rappeler que la notion de bilinguisme dans le champ des sciences du langage est extrêmement déjà difficile à définir et que nous n'avons pas vraiment le temps ici de définir très exactement ce que c'est. Donc nous allons nous contenter d'évoquer les trois grands types de bilinguisme que l'on peut trouver avec la paire de langues français, langue des signes française. Et je le précise, nous ne pouvons pas nuancer aussi bien que nous le souhaiterions ce propos. Donc, premier cas de bilinguisme, le bilinguisme des sourds, qui est bien entendu lui-même déjà pluriel et qui possède trois grands traits spécifiques. Donc, le premier de ces traits est que les deux langues qui sont pratiquées n'ont pas les mêmes modalités, puisque le français possède la modalité orale et la modalité écrite, et la langue des signes française n'a pas de modalité écrite. Deuxième grand trait, les sourds n'ont pas d'accès naturel direct à la modalité orale du français, puisqu'ils sont sourds. Et troisième trait, comme nous l'avons déjà dit, les deux langues en contact sont en situation de diglossie. Donc ceci fait que les sourds vont pouvoir être considérés comme des individus bilingues s'ils maîtrisent la langue des signes plus la modalité écrite du français, ou la langue des signes française plus la modalité orale et écrite du français, ou la langue des signes plus une connaissance imparfaite du français, quelle que soit la modalité. Donc, deuxième type de bilinguisme, le bilinguisme des entendants, donc les entendants bilingues, chez qui on assiste à un continuum dans le degré de maîtrise des langues des signes. Donc, bien sûr, il est plus naturel pour les sourds de maîtriser l'iconicité qui est propre aux langues des signes, et à l'inverse, les entendants, sauf ceux, bien sûr, qui ont la langue des signes comme langue première, vont devoir, en général, lutter contre une pensée linéaire qui est liée au français et à une construction cognitive et culturelle qui est liée à leur canal d'appréhension du monde, c'est-à-dire le canal audiophonatoire. Donc ça les conduit à avoir des difficultés dans la maîtrise de l'iconicité et à superposer éventuellement les deux langues et alors à produire des interférences. Donc à noter qu'à l'extrémité la plus éloignée de la langue des sourds, on trouve le français signé, qui est le cas le plus extrême d'interférence linguistique et qui ne peut pas être inclus dans le cadre du bilinguisme, puisque la langue des signes dans ce cadre-là n'est pas maîtrisée et puisque les structures idiomatiques de la langue sont complètement subverties. Donc, troisième type de bilinguisme, le bilinguisme des interprètes LSF français, donc entendants, qui, de par leur métier, maîtrisent les deux langues à un degré élevé, mais du fait de l'interprétation, ils doivent faire ce passage entre les deux langues très rapide et ils doivent bien sûr lutter contre ce tropisme qui les entraîne, sans forcément s'en rendre compte, à linéariser la langue des signes, au contraire de sa nature iconique. Donc l'interprétation, c'est vraiment par essence une situation de contact de langue et les interprètes, encore davantage que les bilingues entendants, doivent se méfier des interférences linguistiques. Autre fait concernant ce bilinguisme, s'ils ont acquis la langue des signes française comme langue seconde dans des cours où on ne leur a présenté que la variante enseignée de la langue, ils vont devoir faire un effort supplémentaire pour rencontrer toutes les variantes pratiquées de la langue des signes française et les considérer au fur et à mesure comme davantage idiomatiques que la langue auxquelles ils étaient habitués dans leurs cours. Donc finalement, on va pouvoir représenter par ce schéma avec ces deux cercles jaune et bleu le bilinguisme des interprètes qui se trouve à l'intersection et qui est la zone verte. Et à noter bien sûr que dans cette zone verte des interprètes, on peut retrouver également certains sourds ou certains malentendants oralisés qui maîtrisent la langue des signes et le français oral.
Donc on va rapidement passer sur les implications que ce bilinguisme comporte pour les aspects didactiques. Il faut penser à toutes ces choses-là lorsqu'on forme des interprètes. Donc pour résumer les aspects historiques, pour revenir sur la variante apprise par les interprètes entendants non issus de familles sourdes, les aspects linguistiques pour revenir sur le cœur de la langue des signes et même sa périphérie, c'est-à-dire les structures iconiques, et également les aspects sociolinguistiques,
mais également les aspects culturels et les aspects déontologiques. Tous ces aspects sont à prendre en compte et les étudiants doivent les maîtriser pour pouvoir faire leur travail d'interprétation et en respectant la langue des signes française de manière idiomatique.
En conclusion, nous voulions vous proposer d'extrapoler cette esquisse de définition à d'autres langues vocales et signées. Par exemple, vous l'aurez deviné ici, la Libras et la langue parlée au Portugal, les langues vocales parlées au Portugal. Mais on voulait surtout insister sur ce bilinguisme particulier qui permet aux interprètes d'être à la fois dedans et dehors, au-dedans et au-dehors de chaque communauté, tout en formant une communauté à part entière. Nous vous remercions.
Attends, on n'a même pas mis les références.
Olá, boa tarde.
Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Laetitia et voici donc mon nom en langue des signes. Je vais vous présenter à tous le thème est de promouvoir le droit linguistique. Alors, en réalité, ce droit linguistique est donc pour garantir un droit de la communauté sourde au droit linguistique et non seulement la sensibilité en soi. Voici donc cette sensibilité dans l'université, elle est beaucoup plus destinée aux personnes aveugles ou d'autres déficiences qui nécessitent effectivement un accès. Donc le travail des interprètes est beaucoup plus lié aux sourds. Alors, aux individus sourds, donc afin de ceci, nous devons assurer le droit linguistique, non seulement effectivement donc l'accès de ces informations. Et dans ce sens, dans ce cadre, nous avons dans l'UFSC les interprètes qui sont présents afin de garantir à ce public sourd, donc entre élèves et professeurs, nous devons effectivement garantir comme un droit linguistique pour assurer effectivement les sourds, mais les entendants et sourds également. Alors, actuellement, nous devons voir effectivement comment est constituée cette équipe. Donc, à l'UFSC, à Florianópolis, nous avons donc le campus de Araranguá. Nous avons deux interprètes dans ce campus, étant donné qu'il existe un professeur sourd qui est dans ce campus. Également, le campus de Blumenau, donc avec un professeur sourd et deux interprètes. Alors, pourquoi la présence de ces interprètes? Ils y sont pour garantir le droit linguistique à ce professeur sourd afin de l'accompagner, que ce soit dans les réunions, mais également dans leur formation, dans les cours, les divers travaux, afin de garantir l'enseignement de Libras comme LV2. Alors, nous avons également un interprète qui est situé donc dans le collège d'application. Il est situé donc dans le collège d'application de l'UFSC, mais l'équipe, avec la coordination, avec l'institut, lorsque le cas échéant, lorsqu'il le besoin se fait sentir, il y a effectivement un enseignement là. Ils peuvent aider l'interprète puisqu'il ne travaille pas tout seul. L'interprète ne travaille pas tout seul. Il y a également deux professeurs qui aident. Alors, tout ceci pour donner un accès linguistique également, maintenir et garder effectivement tous les droits de ce professeur sourd dans les cours, mais également dans les réunions, et également les élèves d'enseignement de première, deuxième année, si ils étaient présents, s'ils sont présents, donc il y aurait également d'autres élèves pour les élèves entendants. Donc, c'est pour garder effectivement la présence de cet interprète afin de garder, de maintenir la qualité de la traduction, de l'interprétation. Alors, dans le campus de Florianópolis, nous avons 16 sourds, 16 enseignants sourds dans le département de Libras. Et nous avons donc le coordinateur de lettres et Libras. et les chefs du département qui sont sourds, que ce soit le coordinateur de Lettres Libras et le chef du département qui est sourd également et qui est accompagné par le coordinateur des interprètes. D'où le besoin qui est toujours validé pour que ce coordinateur soit toujours le même afin d'accompagner ces chefs du département ou encore le chef de la coordination de Lettres et Libras afin qu'il y ait un suivi des disciplines les plus diverses. Alors qu'il y ait déjà une connaissance concernant le vocabulaire, la prise de conscience que l'on a dans l'université également lorsque l'on a accès à cette université. Donc il effectue effectivement le lien. Il fait le lien entre le chef de département ou un autre département. Et donc, c'est lui qui doit s'identifier non comme la personne, l'interprète, mais avec le nom du coordinateur ou du chef de département. Immédiatement, ils identifient si c'est une femme qui représente un homme ou inversement. Non. Donc, il comprend déjà le besoin de ne pas identifier l'interprète, une conscience culturelle quant à la représentation, non pas de l'interprète, mais la personne qui représente le professeur. Donc, il y a ce respect, disons, en ce qui concerne la personne sourde en elle-même. D'accord? Alors, actuellement, la coordination des interprètes est faite entre les interprètes et la coordination. Nous avons 19 interprètes. Qui sont situés, qui travaillent dans l'Institut, le lycée CS, donc UFCSC, dans la coordination. Et dans cette équipe de 19 interprètes, nous avons plusieurs travaux qui sont réalisés par ces professionnels, le travail d'interprétation, le travail de Libras dans l'interprétation, dans la traduction également, l'enseignement à distance, nous avons également l'enseignement à distance, et la traduction de matériel de support, voilà, que ce soit des supports de matériel à distance, mais également utilisés dans des disciplines, dans les matières. Alors, le Lettres Libras, c'est un cours de doctorat, c'est effectivement la principale demande des élèves actuellement ou des interprètes. Alors, que ce soit pour les entendants ou pas pour les sourds. C'est un travail qui est fait pour garantir un droit linguistique pour les élèves entendants également, puisque les cours peuvent être effectivement donnés par des professeurs sourds qui sont dans une salle de classe. Là, il va donner un cours dans langue des signes et il doit effectivement garantir ce respect pour du contenu qui sont destinés aux élèves entendants. Outre ce travail, dans tout ce qui donc nous avons le post-doctorat en présence des élèves à distance, la traduction, l'interprétation. Nous avons la question effectivement de Libras tactile pour accompagner l'élève aveugle et sourd et aveugle. Nous avons deux guides interprètes. Ce sont les guides ici qui font tout le suivi d'un élève jusqu'à la formation. Donc du début jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Donc nous avons un élève qui a déjà terminé, qui est diplômé, qui est sourd aveugle et un autre maintenant qui est sourd aveugle, qui est en cours de formation. Alors c'est une équipe qui est en croissance et en fonction des domaines qui sont agrandis avec toutes ces connaissances spécifiques qui sont demandées. Alors ici, le nombre d'interprètes, ces diplômes, leurs diplômes, on vérifie que nous avons des contrats déterminés, à durée déterminée, un cadre de titulaire, de contrats indéterminés également. La plupart sont déjà diplômés. Il y a également des post-docs, des interprètes en post-doc, des doctorats, enfin. Vraiment, nous avons diverses offres et également une salle où les élèves sont en contact avec les enseignants. Ils ont accès à cette salle et c'est une salle où l'élève sourd peut demander, peut être en contact, peut demander une aide, un cas d'urgence. voilà, ou sur rendez-vous, c'est une donc il peut rechercher effectivement, c'est un comme une salle de service de garde, hein, voilà, dans le cadre de l'université. La suite, s'il vous plaît. Alors, ensuite, nous avons un site hein, qui peut être consulté, un règlement hein, des interprètes qui a été créé en partenariat avec les professeurs sourds du département et ainsi que les interprètes qui ont complété cette base. Ce travail doit être effectivement enrichi puisque les besoins ont évolué. Donc, il faut reformuler, recréer de nouvelles règles, de nouveaux paramètres. Mais là, une fois de plus, nous avons une charte éthique, le type d'accueil hein, qui est donné, qui est fait dans cette institution. Ici, nous avons le règlement. Les suggestions, les critiques, hein, les avis qui peuvent être fournis. Et donc, on doit toujours garder et que la communauté nous donne des retours hein, afin que le travail professionnel soit amélioré. Hein. C'est toujours en cours d'amélioration. Alors, nous demandons toujours, nous fournissons hein, du matériel qui peuvent être diffusés, mis à disposition tout au long des cours afin d'améliorer toujours le contenu et une meilleure traduction hein, pour toutes les parties prenantes de cette action. Alors, merci beaucoup. Voici le contact de l'équipe des interprètes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici présent cet après-midi. Je vais changer un petit peu, faire une transition de thématique. Je vais vous parler de la thématique aujourd'hui. J'avais donné un autre titre, mais vous allez voir, vous allez découvrir un petit peu ma présentation. Alors, ici, quelques références à mon sujet. D'ailleurs, au Brésil, je travaille, je suis un des premiers professionnels dans l'art, le théâtre. Hein, je suis voilà. Et alors, nous préoccupons surtout de. Voilà, nous avons organisé ces rencontres internationales. J'ai un spectacle qui est assez connu, qui est Nelson en live, alors qui a déjà été parcouru 20 villes dans tout le Brésil. C'est un spectacle que nous avons pu montrer aux États-Unis. Alors, j'y étais un laps de temps. J'ai appris avec la population aux États-Unis, les sourds, donc sur l'expression théâtrale, la culture sourde, des sourds. Et aujourd'hui, donc, j'étudie un programme d'études et de traduction de l'UFSC sur la prosodie en Libras. Hein. C'est pour ça que je utilise ce signe, n'est-ce pas, parce que je n'utilise pas la prosodie vocale, mais la prosodie donc en signe. Hein. Donc, elle peut être moyenne, vers le haut, vers le bas. Je travaille avec le professeur, un professeur dans cette action. Alors, pour cette action, donc, j'ai choisi un film brésilien, La Cité de Dieu, hein, Cidade de Deus, Casos e Conflitos, et je vais parler de ce processus de production. Voilà un petit peu l'objet de ma présentation. Nous avons un groupe de théâtre, nous avons voulu faire une adaptation de ce film. Et nous avons donc voulu faire Cidade de Deus. Donc, nous avons le directeur de ce processus, Carlos Lucas. Et nous avons vu ce film et nous avons vu qu'il y avait représenté une culture générale qui est la culture des entendants. Nous avons intégré des aspects pour l'adapter à la langue des signes, n'est-ce pas, pour adapter le contenu de ce film dans la langue des signes. Alors, comment nous avons choisi le casting, n'est-ce pas, et des professionnels pour le casting? Nous avons vu que nous avons ici le IASCS, n'est-ce pas? Donc, voilà le signe de l'IACS, c'est le Centre intégré d'art dans la culture sourde. D'accord. Et
nous
Cela fait déjà 30 ans que je travaille, je suis président de ce groupe. Alors à présent, nous transmettons à d'autres personnes qui vont travailler dans ce groupe. Nous avons travaillé dans un festival Clin d'œil en France. Et nous avons travaillé avec ce groupe et nous avons un partenariat avec l'Institut de Sourds ici en France. C'était une expérience extrêmement enrichissante pour nous tous. Nous avons présenté donc ce théâtre Cidade de Deus, Casos e Conflitos, des cas et des conflits. Et moi, je suis donc l'assistant de direction de cette pièce de théâtre. Alors, tous les sourds sont déjà diplômés, ils ont participé dans le film, ils sont dans le casting, n'est-ce pas? Et je vais vous parler après de l'expérience en France. Alors, voyons comment nous avons fait ce processus d'adaptation du film en Libras. Alors, cette application, cette traduction culturelle du cinéma vers le théâtre, nous devons intégrer certains aspects qui ont des éléments de la culture en signe, les éléments sémiotiques, les éléments en signe. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées dans ce processus de création se concernent, par exemple, toute la distribution des acteurs, le scénario, tous les acteurs, évidemment, ils le savent, ils connaissent la langue portugaise, mais il y a certaines limites en termes de... on a dû enregistrer toute cette histoire pour que les débats puissent être plus fluides en langue des signes jusqu'à ce qu'on parvienne à une adaptation qui représente vraiment le film en théâtre, dans le théâtre en langue des signes. Une autre difficulté que nous avons rencontrée est la question du financement. Évidemment, il est très difficile d'obtenir un financement. Il y a beaucoup de barrières. Il n'y a pas cette incentive et cet encouragement. C'est une demande et c'est quelque chose qui exige beaucoup d'argent. Alors, autre chose qui... était très, très clair pour nous. Il y a tout un débat sur ce qu'est la culture sourde et la culture brésilienne. Alors, nous avons une norme des professeurs qui enseignent la langue des signes et les espaces qui utilisent la langue des signes et la communauté sourde. Alors... Alors, dans cette éducation inclusive, où on a effectivement, nous voyons que la culture des signes, elle va circuler avec beaucoup plus de fluidité. Alors, nous reconnaissons également les différences de ces espaces, mais nous reconnaissons également que nous avons un espace biculturel et bilingue également. Alors, il est important que le sourd apporte ses marques de la langue des signes dans son expression culturelle. Ici, nous pouvons voir que les personnes sourdes au Brésil, dans ce contexte bilingue, et donc nous avons effectivement ces acteurs, Hammers et Blanc, expliquent que nous devons effectivement avoir un équilibre, voir ce qui est positif dans la culture brésilienne entendante et dans la culture sourde et d'apporter ces aspects afin qu'ils puissent être interchangés. Et donc, j'étais dans une position où j'observais et je voyais ce que je pouvais apporter dans la langue des signes. Et donc, il y a une tendance de séparer ce qui est gestuel, ce qui appartient à la langue des signes, ce qui n'appartient pas à la langue des signes. Alors, nous approprions notre préoccupation et de comprendre ce qui est positif dans ces deux niveaux et de ne pas les séparer définitivement. Alors, Berry et d'autres collaborateurs nous disent et concluent qu'il existe cette expression, qu'il y a la prosodie qui est propre de la langue des signes, de la représentation culturelle sourde, et que les entendants reconnaissent, mais que parfois, et qu'il y a certaines comparaisons entre ces différents groupes. Et donc, nous devons respecter les groupes dans leurs différentes formes d'expression. Alors, vous souvenez ce dont je vous parlais sur quelle culture choisir, la culture brésilienne ou la culture sourde à partir de ces expériences que nous avons eues à l'extérieur, donc à l'étranger. Nous avons choisi d'intégrer dans ce spectacle, Nelson en live, un spectacle qui aborde la langue des signes et qui plaise au public des entendants, mais également des sourds. Et la représentation en langue des signes est présente et ce mélange entre l'iconicité, tous les signes et les entendants apprécient également ce spectacle, comme si nous assistions, disons, à un stand-up comédie ou un spectacle d'entendants, n'est-ce pas, où la prosodie cause le même effet auprès du public. Alors, la prosodie en langue des signes, je parviens à créer ces effets qui sont très semblables aux effets de la prosodie vocale, d'accord? Alors, vendredi, par exemple, je vais montrer ce spectacle. Je vais vous produire. Là, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vendredi, ceux qui voudront pourront assister à ce spectacle. Et nous avons participé au festival Clin d'œil en France. Et c'était un partenariat extrêmement important. L'année dernière, nous étions présents. Je vais vous montrer vraiment un très, très court extrait sur notre participation à ce festival. En image. Alors, voici, effectivement, c'était pour vous montrer un petit peu l'expressivité de la langue des signes, que ce soit au travers de la danse, hein, qui n'est pas une culture sourde. Hein. C'est un aspect de la culture brésilienne, samba, mais que nous avons intégré. Hein. C'est très, c'est caractéristique dans notre production, voilà. Et en fonction du temps, alors qu'il m'est imparti, je vais devoir peut-être m'arrêter là. J'aimerais donc remercier très rapidement Ivani, le professeur Ivani. Cela fait beaucoup d'années que nous débattons sur ces questions d'expressivité de la langue des signes. Et voilà, c'est vraiment, j'aimerais remercier vivement, chaleureusement le professeur Ivani, l'anthropologue Olivier Chetri. Hein, qui est ici, qui est dans le public, qui assiste à ma présentation également. C'est un honneur. C'est l'Institut de Sourds qui a été très, très important pour mon développement en tant que professionnel. Et le professeur Irae Cardoso qui est présente également, voilà, qui m'a fait cette invitation et afin d'être présent ici. Merci beaucoup.
J'aurais une question pour Laetitia. Laetitia a déjà beaucoup d'expérience sur l'interprétation et ce lien entre professeurs, interprètes que nous avons dans de nombreuses institutions, nombreuses universités.
Et nous percevons que
dans certaines universités, il n'y a que deux interprètes. Et il y a beaucoup de matières. Et certains entendants n'ont pas forcément besoin d'interprètes. En revanche, certains ne dominent pas la langue. Alors, comment se produit cette relation entre les professeurs, les interprètes, l'étude des matériels, les textes? Par exemple, le professeur entendant, est-ce qu'il va expliquer en langue orale et le professeur sourd en langue des signes? Et comment communique-t-il? Comment utilisent-ils le matériel qu'ils ont à leur disposition? Certains cours sont traduits en langue des signes. Et parfois, l'interprète lui-même ne connaît pas le contenu. Il faut qu'il soit aidé par le professeur. Par exemple, le coordinateur de la formation qui est sourd, il reçoit d'autres entendants. Comment est-ce que cela fonctionne? Comment fonctionne ce lien entre les coordinateurs et les autres élèves, les autres enseignants? Vous avez parlé de la question de l'interprétation, de l'expérience. Mais quelle a été votre deuxième question? Oui, vous avez dit que certaines universités n'avaient que deux interprètes. Nous avons réussi à étendre notre service dans l'université où je travaille. Il y a de nombreux professeurs sourds et donc nous avons dû recruter de nouveaux interprètes parce qu'il y avait une demande de la part des enseignants sourds. Il y a de nombreux élèves et donc nous avons un besoin crucial d'interprètes. Auparavant, effectivement, nous en avions peu. Il y a toujours une demande d'interprète. Nous y sommes presque, mais pas encore tout à fait. Il est important de montrer quel est le travail de l'enseignant sourd, mais la présence de l'interprète est également très importante. Sur la question des matériels qui sont utilisés, plutôt des matériaux, on nous dit très souvent que c'est important d'avoir ces matériaux, de les fournir à l'interprète, car si vous donnez ces documents de préparation aux interprètes, ils se sentiront plus prêts, ils pourront travailler avec plus de fluidité. Donc vraiment, il faut mettre sur pied un travail de partenariat. Tout fonctionne mieux lorsque l'interprète et l'enseignant travaille main dans la main. Donc vraiment, il s'agit d'un partenariat. Dans notre université, nous cherchons à diffuser ce type de pratique, que ce soit au premier cycle ou plus tard. Une fois que les enseignants ont choisi leur discipline et que chacun s'est identifié progressivement avec la matière qu'il souhaite enseigner, nous cherchons à stimuler cela. Nous ne nous en tenons pas aux matériaux, bien sûr. Il y a également l'effort à fournir, mais la question des documents de préparation est importante. Et puis, quant à la coordination entre le chef de département et l'enseignant, ils ont un interprète qui les accompagne, car ils doivent résoudre de nombreuses questions administratives. Ils sont en contact permanent avec le recteur, avec les autres enseignants. Les enseignants sont très sollicités, il y a beaucoup de demandes, et donc il y a pratiquement un interprète attitré aux responsables. Bonjour. J'aurais une question à Laetitia. Je suis également interprète dans l'enseignement supérieur au Portugal. Et je ne sais pas si vous avez mentionné le nombre d'heures de traduction que doit faire un interprète. Je ne parle pas d'heures où l'interprète est en réunion ou doit accompagner. Non, combien d'heures actives en salle de classe est-ce que l'interprète réalise ? Merci. Le nombre d'heures varie. Nous avons environ 40 heures hebdomadaires, le matin et l'après-midi. Mais il y a également toute la planification, la préparation à faire. Et cela représente environ 10% des heures que nous faisons, c'est-à-dire que nous consacrons au moins 4 heures par semaine à la préparation. Donc, bon, cela varie beaucoup. Tout dépendra de la semaine, de la demande en interprétation, s'il faut que ce soit, par exemple, tous les matins, ce qui peut arriver. Parfois, nous devons interpréter le matin. Et nous devons de nouveau interpréter l'après-midi. Et puis parfois, nous n'avons pas interprété le matin. Donc, cela compense un peu. Parfois, nous nous amusons un peu, car nous utilisons le mot « arbre ». Arbre pour parler de ce qu'on appelle en portugais « plantation », mais en réalité, il s'agit d'un service de nuit, un service de garde. On est toujours en attente, car il peut toujours survenir quelque chose. Donc cela varie en fonction de la demande. Et si c'est le cas, il faut que nous soyons là. Mais bon, les interprètes cherchent à être toujours disponibles pour répondre aux demandes. On travaille généralement avec 3 matières par semestre, maximum. Mais cela dépend si vous êtes en premier cycle, si vous êtes en master. Donc, est-ce que j'ai répondu à...